commencer, peut-être ce qui serait bien, ce serait de resituer en deux mots en fait cette enquête qu'on va vous présenter et le cadre dans lequel on l'a faite, on l'a réalisée. Aussi pour dire qu'il y a deux points qui me semblaient importants pour commencer. C'est un premier point, c'est-à-dire pour nous situer dans cette enquête-là, c'est que nous, on est un groupe de recherche indépendant. On travaille depuis une dizaine d'années sur des sujets relatifs à l'urbain. Et en fait, l'enquête qu'on va vous présenter aujourd'hui, elle diffère pas mal de nos enquêtes précédentes, puisqu'on a toujours travaillé en fait sur des luttes, des collectifs qui étaient en lutte contre des réaménagements urbains. Donc ça me semble important de le préciser. Et que cette enquête-là, je pense, c'est une des premières enquêtes où vraiment on s'intéresse à la question de l'habité ordinaire, même s'il est extraordinaire, mais par d'autres biais, puisque c'est un quartier exemplaire. Je vais revenir sur cette dimension exemplaire qui est importante. Donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est le cadre. Donc on travaille sur commande. Hein. On est vraiment... on ne dépend pas d'une institution universitaire. Donc on travaille sur commande. Donc dans le cadre de programmes de recherche ministériels, essentiellement. Donc là, l'enquête qu'on va vous présenter, c'était un programme ministériel qui s'appelait Movida. Donc c'était sur mode de vie durable. Hein. Et si je voulais commencer l'exposé là-dessus, c'est par rapport à ce que vous avez dit sur la question des... Enfin, ce que, Ludovic, tu as appelé l'approche téléologique, puisque, en fait, ayant cette expérience de recherche par programme, c'était la première fois qu'on... les équipes qui étaient convoquées avec nous étaient dans cette approche. Le programme lui-même, c'était la première fois qu'on rencontrait un programme avec cette approche téléologique. Donc, on irait dans ton sens, en fait, dans le sens que on a une approche téléologique sur des habitants conçus comme des freins... Et il faut trouver les leviers pour... Et il y avait même une des recherches, ça on n'avait jamais vu ça, hein, dont la visée était d'expérimenter des nudges. Donc les chercheurs avaient eux-mêmes pour fonction d'expérimenter des incitations comportementales à l'endroit des usagers. Donc ça me semblait important de le préciser, puisque ça aussi, ça positionne bien notre propre position là-dedans, puisque l'enjeu pour nous, en répondant à cet appel à projet de recherche, c'était bien de faire différer quelque chose sur cette question de l'adaptation. Enfin, nous, on le situe à cet endroit-là, quoi. Nous, si travailler sur l'habité, c'était faire différer la question d'usagers qui auraient à s'adapter en mettant cette question de l'habité, on voulait créer un problème plus fort, quoi. Donc voilà, pas prendre pour acquis les approches de sensibilisation et pédagogique, hein, qui étaient vraiment comment était orienté cet appel à projet de recherche, avec le même genre de déplacement que Ludovic a pointé tout à l'heure. Donc notre question, c'était pas comment impulser des bons comportements, mais comment, avec question, on posait la question naïvement, hein, comment la ville durable est-elle habitable? Est-ce que la ville durable est habitable et sous quelle modalité? Alors, le point qu'on va développer aujourd'hui, plus spécifiquement, c'est celui un peu des subjectivités qui sont sollicitées et qui sont... qui sont produites, qui sont portées par les habitants du quartier de Confluence. Donc on va mettre le focus là-dessus avec donc cette idée du peuplement. Qu'est-ce qui peuple ces écoquartiers comme ça, sachant que le caractère démonstrateur et exemplaire du quartier, mais ça je vais commencer par faire un point là-dessus, ça me semble important, est vraiment central pour Confluence. Je pense qu'il y a des gens qui ne sont jamais allés à Lyon et qui ne voient pas vraiment qu'est-ce que c'est peut-être Confluence. Et je vais passer par une petite description de la construction de cette exemplarité. Donc ça, c'est vraiment le point qu'on va développer sur la question des subjectivités, avec quand même deux sous-questions. Comment l'exemplarité ou comment ce caractère démonstrateur d'un quartier est mis à l'épreuve par sa mise en réalité, par le fait qu'il soit livré et construit, hein, comment on met en réalité un exemple. Et puis, par les habitants, hein, qui le peuvent. Et puis, deuxième question, comment, alors ça c'est une question qui est sous-tendue, comment le gouvernement des conduites donc sur cette question de la téléologie, là, très bien pointé, achoppe sur cette question de l'habité. Alors, pour nous, Confluence, c'était vraiment un bon objet pour parler de ces affaires d'habité dans les écoquartiers, parce que, en quelque sorte, il implique et inclut sa propre exemplarité. Donc nous, on n'avait pas à en faire un exemple en termes de recherche, puisque l'exemple était conclu déjà dans l'objet. Alors, je vais essayer de détailler rapidement un peu. Déjà, il est exemplaire de par son ampleur et la centralité du quartier, puisque il faut bien voir que le quartier Confluence concerne 150 hectares en plein centre de Lyon, c'est sur la presqu'île, hein, entre les deux fleuves. Il doit s'échelonner sur une vingtaine d'années. En fait, il y a du retard qui est pris, donc ça va être plus sur 30 ans. Et nous, on a travaillé... et ça doit permettre de doubler la superficie du centre-ville de Lyon, puisque c'était un espace qui était interlope un peu, puisque c'était l'ancien marché de Gros, avec aussi un lieu, ça on en reparlera un petit peu, avec de la prostitution, un lieu interlope, quoi, alors en plein centre-ville. Et donc, nous, on a travaillé sur la première phase du projet, donc sur les premiers logements qui ont été livrés effectivement au début des années 2010, et nous on est arrivé quelques années après. L'enquête on l'a menée entre 2013 et 2015. Donc les habitants avaient un certain recul un petit peu par rapport, je pense, à ce qui explique le motif de la panne, enfin on reviendra là-dessus, qui est très très prégnant dans notre enquête. Alors, on a enquêté, nous, donc, à la fois sur la ZAC 1, donc la partie, la première tranche du projet, et en même temps, sur un autre démonstrateur, puisque ça fait partie, j'y reviendrai vite fait, sur du démonstrateur Smart Community, puisque c'est aussi à l'échelle du quartier, c'est un démonstrateur des Smart Community, et qui était une cité HLM dans laquelle ils ont installé des tablettes de suivi de la consommation, donc qui incluait l'éco-rénovation de cette cité HLM, et via l'installation, enfin avec comme premier point l'installation de tablettes de suivi des consommations. Alors, on peut dire que le quartier Confluence est aussi exemplaire, puisqu'il se caractérise deux fois historiquement par l'ampleur de la transformation de la ville qu'il engage, puisque la première fois à la fin du XVIIIe siècle, il a été conquis sur les deux fleuves. Donc on peut dire, en fait, d'une certaine manière, que c'est une conquête réalisée en deux temps. Une première fois sur les éléments naturels pour inaugurer la ville industrielle, et une seconde fois sur table rase, hein, puisque tout a été détruit et reconstruit, sauf la cité Perrache. Hein, tout le nord du quartier doit être éco-rénové au fur et à mesure, en misant sur l'exemplarité du quartier sorti de terre. Au fur et à mesure, toute la presqu'île doit être éco-rénovée de cette manière-là. Mais donc, une deuxième fois, sur table rase, pour inaugurer la ville du Rhin. Donc, c'est aussi un projet vitrine pour le Grand Lyon. Donc là aussi, historiquement, hein, c'était déjà Napoléon III prévoyait de construire un palais impérial sur la Confluence. Ardoin Mansart veut y construire une cité administrative dans un parc imité de Versailles. Donc, on voit bien que là, il y a aussi... la manière dont d'ailleurs Louis Marin décrit le château de Versailles, un pouvoir qui ne se manifeste pas, qui ne se manifeste en se présentant, hein, en se donnant au regard, hein, la performance architecturale, technologique, l'aspect culturel, économique, s'incarne véritablement dans le paysage urbain. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il est situé à l'entrée sud de la ville, hein, il offre en fait aux visiteurs de Lyon une vue magistrale sur la ville. En matière de réseau intelligent, hein, puisque je l'ai dit rapidement, mais c'est un des premiers démonstrateurs en France des smart community. Donc c'est un partenariat avec Toshiba, l'Agence nationale de l'énergie, NEDO, et qui comprend quatre volets opérationnels. La conception d'un ensemble de bâtiments à énergie positive, c'est le projet Icari. La mise en service d'une flotte de véhicules électriques en autopartage, c'est le projet SunMove. L'installation de systèmes d'audit énergétique dans les logements, donc ça c'est le projet des tablettes consotables dans la cité HLM, dont on va un petit peu parler là, dans l'exposé. Et puis, surtout, le gros projet de Smart Grid, c'est la mise en place d'un système d'analyse des données énergétiques à l'échelle du quartier, qui est le Control Manager système. sachant que ce projet-là, on est encore à ses débuts, hein, c'est pas du tout encore effectif. Quoi. Bon, et puis évidemment, c'est un projet exemplaire en matière de développement durable. Il y a eu toute une série, ils ont gagné toute une série de concours, de labels, le label Écoquartier, Concerto, et c'est même un des écoquartiers du WWF. Alors, donc vous imaginez bien, il y a toute une profusion de discours sur ce quartier. Il faut aller sur le site internet pour comprendre un peu comment ça se déploie, tout ce discours-là. Donc nous, on a pris le parti d'aller du côté des habitants, de voir comment l'habiter au niveau vraiment de l'expérience commune, ordinaire. Comment est-ce qu'on peut habiter un quartier exemplaire ? Donc la manière dont on a procédé, c'est qu'on a vraiment refusé d'aller voir du côté des... on n'a pas symétrisé, hein, là, par rapport à la question que vous posiez, on n'a pas du tout symétrisé les aménageurs, les concepteurs et les habitants. Nous, on a pris parti d'aller vraiment au ras de l'expérience du quartier, ce qui a pas fait qu'on a complètement boudé les institutions, les professionnels, les aménageurs, mais on a pris ceux qui étaient aux prises avec les problèmes concrets qui se posaient dans le quartier. Donc on en est allé voir aussi donc, tous les professionnels de première ligne, eux, on a pu les rencontrer, mais on a voulu procéder de proche en proche. Donc on est allé voir des habitants qui nous ont dit « Ah, ben, allez voir un tel ». Voilà, on a procédé comme ça de proche en proche, que ce soit sur les deux sites, hein, la cité HLM ou le quartier Sortel. Il me semble qu'un des aspects importants de notre travail, c'est d'avoir pris la parole des habitants au sérieux. C'est-à-dire... comme un mode de dénonciation et de projection située de l'habité, et donc de ne pas réduire en fait la matière vivante de ce discours de l'habité, c'est-à-dire la langue vivante, elle rebondit, elle se dilate, elle fait des ellipses, elle associe des plans différents, elle opère des liens improbables, que nous on a pris au sérieux en fait, on n'a pas ensuite redécoupé tout ça, on a pris cette langue-là comme étant la langue de l'habité, donc celle qu'il nous fallait suivre si on voulait comprendre l'habité à la Confluence. Donc ensuite, nous, on a fait des plans de coupe. Donc on a même repris des longs extraits d'entretien à plusieurs moments dans le rapport en l'éclairant de manière un peu différente sur la question des usages, sur la question des ruses pour des aménagements secondaires pour arriver à habiter le quartier. Aussi, et c'est ce dont on va beaucoup vous parler aujourd'hui, on a la manière dont on a traité ces entretiens a impliqué l'émergence de personnages récurrents, hein, des interlocuteurs privilégiés. Alors privilégiés, mais on reviendra là-dessus, au sens où ce qu'ils nous disaient du quartier allait au-delà de leur simple cas, au sens où en articulant un peu ce que nous disaient ce qu'on a appelé des figures, hein, du quartier, tout ce qu'ils nous disaient sur l'habité impliquait des lignes de moyenne portée, en fait, des motifs dessinés, participaient à dessiner des motifs de moyenne portée qui donnaient une explicitation du quartier et des objets communs du quartier. Mais bon, Yannis reviendra sur ces questions-là. Donc là, ce qu'on vous présente aujourd'hui, on l'a construit en trois temps, qui sont un peu des surprises de l'enquête, en fait, des choses auxquelles on ne s'attendait pas à trouver et qui ont un peu surpris notre enquête. Déjà, alors, premier point, c'est la surreprésentation d'un discours sur les pannes et plus largement sur les dysfonctionnements, qui se retrouve un peu à tous les étages, avec vraiment un caractère systématique dans les discours des acteurs, avec le même genre de mise en cause, mais aussi de l'articuler dans les discours des gens qu'on a rencontrés. Ensuite, donc deuxième point qu'on développera, c'est les manières de parler, de se projeter dans ce quartier-là, directement qu'on a associé à des modes de définition d'un certain point d'énonciation. Donc c'est des sortes de positionnements qui sont à la fois typiques et fictifs, des subjectivités en chantier, dans une ville qui est elle-même en chantier, ont permis de faire émerger, à même le matériau, un nombre assez limité de figures susceptibles de peupler cette ville durable 2.0. Et enfin, la logique d'entretien de proche en proche a aussi fait émerger des collectifs dont l'existence n'était pas postulée au départ, des collectifs qui permettent de resocialiser l'expérience de l'habité, ce qui explique d'ailleurs le discours type un peu sur les dysfonctionnements, hein, puisque c'est des formes de resocialisation de ces problématiques-là qu'on a nous enregistrées. Et surprise dans la surprise, des corps intermédiaires de l'habité, ces corps intermédiaires de l'habité qui permettent de resocialiser tous les dysfonctionnements sont finalement des corps intermédiaires des plus ordinaires, puisque ça va être des conseils de copropriété, ce genre d'entité-là. Alors, donc la première surprise, c'est la prégnance du motif du dysfonctionnement. Alors, on a enregistré la satisfaction aussi hein, des habitants. On retrouve aussi l'expérience distinctive qui est, en tout cas dans la ZAC 1, hein, dans tout le quartier sorti de terre, ça, on retrouve ça systématiquement, mais quasiment tout le temps articulé au motif de la panne et du dysfonctionnement, et un peu comme tu l'as dit dans la réponse aux questions, du fait que parce qu'ils sont satisfaits, ils sont d'autant plus en colère du fait que ça ne marche pas. Hein. Donc, là, je vais lister un peu les cinq grandes tensions qu'on a repérées dans le quartier. La première tension, c'est la tension entre la ville modèle et la ville réelle, entre, d'une part, la grandeur affichée du projet, son caractère emblématique, et, d'autre part, les petites vicissitudes du quotidien dans un quartier qui est, finalement, depuis sa construction, toujours en chantier. Donc l'habitat à la confluence tel que nous on l'a enregistré est inséparable de la contrainte permanente, des malfaçons, des nuisances mineures et persistances liées à l'ancrage réel de ce territoire qui se projette dans sa première acception comme un prototype en fait, comme un projet. Donc c'est un régime de tension assez classique hein, dans la sociologie urbaine entre ville modèle et ville réelle, sauf que là, il se prolonge d'une certaine manière dans la contradiction permanente entre performance et dysfonctionnement, donc performance énergétique, écologique, esthétique, et dysfonctionnement des équipements technologiques. On reviendra sur la dégradation accélérée de certains bâtiments, des malfaçons dans la conception ou la finition, les mésusages des espaces, la faillite de certains commerces centraux, le dépassement du coût faramineux, notamment de l'exemple célèbre du musée des confluences qui n'est pas complètement explosé le budget prévu. La deuxième tension qu'on a repérée, c'est la cumulativité de ces défaillances. Donc ce qui est frappant dans les entretiens, c'est le caractère typique de la mise en série des dysfonctionnements. C'est toujours les mêmes occurrences qu'on a pour le registre de la panne, de la malfaçon, du défaut de conception. Généralement, on part, c'est construit temporellement, on part des défauts de conception pour passer aux malfaçons, suivre les problèmes de gestion et de maintenance avec même des exemples ubuesques de panne dans la panne quand sur un des immeubles, il y a impossibilité de trouver réparation quand les sous-traitants en cascade ont mis la clé sous la porte et que la documentation technique est introuvable. Un troisième régime de tension, c'est ce qu'on a appelé un smart city. La tension sur la ville 2.0. On est sur du prototype, cette exclamation est empruntée à l'un de nos interlocuteurs et elle constitue sans doute la formule maîtresse pour comprendre les défaillances techniques. On est sur du prototype, c'est-à-dire qu'on a affaire à des ensembles expérimentaux non concrets au plein sens du terme. C'est-à-dire que les ensembles techniques sont trop spécialisés et relativement désadaptés. Le système de chauffage nous est présenté comme trop complexe. La VMC double flux ne supporte pas son inscription dans un contexte pratique des plus simples. Hein, où le simple fait d'ouvrir la fenêtre fait dysfonctionner. Des platines vidéo sur les, aux entrées des bâtiments qui brûlent parce qu'ils sont sur une surface sombre orientée plein sud. Donc on voit que tout cet ensemble technique dysfonctionne du fait de la faiblesse des systèmes de compensation et de manière plus générale de son inscription défectueuse dans les milieux sociaux et environnementaux. Et donc d'une certaine manière, ce qui se rajoute à ce système de tension relatif au PAN, à la ville qui n'est pas si intelligente que ça, c'est que puisqu'elle est présentée comme intelligente, ben, tous les ratés deviennent sursignifiants et viennent signaler finalement la crise d'une urbanité qui est encore en chantier. Donc la ville intelligente, là je cite des acteurs, hein, la ville intelligente n'est pas si intelligente que ça, l'écologie c'est bien beau, mais encore faudrait-il que ça marche. Donc quatrième régime de tension, ça c'est la crise de la ville, c'est un peu ce que Ludovic appelait la violence symbolique. Donc nous on a enregistré ça vraiment comme une ville en tension, quoi. Une ville en tension, alors sociale, mais aussi raciale. Alors tout se passe dans la ZAC 1 comme si les tensions et les vieux problèmes de la ville, les impasses de la politique de la ville s'y trouvaient catapultées instantanément. C'est comme si à la confluence, les habitants ne bénéficiaient pas de cette expérience accumulée, du substrat d'expérience commune qu'on a de la ville, qui permet normalement de se ressaisir de ce qui sépare, de lire ce qui se joue dans telle ou telle pratique déviante et de refaire le lien. Donc si dans le quartier, par exemple, ça on l'a vraiment enregistré dans la différence qu'il y a entre la cité HLM et le quartier sorti de terre, c'est dans, à la cité Perrache, les écarts à la norme parviennent à être ressaisis, notamment par un des opérateurs de liens qu'on vous présentera, hein, le gardien de la cité Perrache. Dans la partie neuve du projet, cette expérience de la ville faisant défaut, on a l'impression que les tensions surgissent entre des formes de vie qui sont complètement incompatibles et apparaissent comme diffractées, démultipliées. On nous évoque un apartheid social, une guerre de civilisation rejouée à l'échelle du bloc, dans le vis-à-vis entre des propriétaires et des locataires, des habitants historiques et des communautés étrangères, ceux qui sont sur la DARS, donc et ceux du logement social qui sont derrière, dans le monolithe, quoi, qui est le quartier, l'immeuble du logement social. Il y a comme un effet de modèle réduit qui semble encore faire monter la pression. Et d'une certaine manière, on y lit un curieux effet de la haute qualité environnementale sur la question sociale. Dans un contexte où l'habité se trouve principalement coordonné à l'idéal d'un confort de vie qui est paramétré, contrôlé, tout ce qui vient mettre du désordre ou de l'inconfort se trouve d'autant plus exclu symboliquement ou affecté d'une valeur négative irrémédiable. Hein, c'est d'autant plus surprenant qu'on retrouve ce discours caricatural et angoissé sur le choc des civilisations dans la bouche du type d'habitant que tu as décrit. Donc c'est CSP+, qui retraité. Donc voilà, c'est une autre facette de la ville durable qui est en crise. Donc, dernier point de tension, c'est la tension entre éco-cité et force de la nature. Donc la confluence a été projetée, je l'ai dit rapidement, hein, sur un site spécifique aux confluences des eaux entre deux fleuves, mais aussi c'est un lieu où les courants atmosphériques sont accélérés par le couloir rhodanien. Donc la ville écologique se trouve depuis cette terrestrialisation confrontée de manière saisissante à des forces surgies du fond du monde, des forces proprement écologiques, qui viennent en permanence la détraquer. Donc le quartier ouvert sur le fleuve est susceptible d'être traversé par des vents violents qui arrachent les éléments de façade et font voler des objets divers depuis les terrasses. Les parkings souterrains, qui est une des malfaçons connues de confluence, qui sont conçus pour être insubmersibles face aux remontées des nappes phréatiques et aux infiltrations des fleuves, par contre sont, de manière assez dramatique, infiltrés par les pelouses et par le dessus, quoi. Tous les aménagements naturels qui ont été conçus effectivement comme tu l'as décrit avec des mares, il y a des mares de canards, mais le problème c'est qu'il n'y a pas simplement les canards, il y a aussi les ragondins qui n'étaient pas prévus au programme, il y a aussi les rats, les souris qui viennent se nicher dans les isolations des bâtiments de haute qualité environnementale, parce qu'au moins avec le béton, on n'avait pas ce type de problème, mais quand on a des murs en millefeuille, comme ça, isolation, ben c'est parfait pour que les bêtes se nichent. Donc c'est évidemment très amusant, puisque c'est le paradoxe de la gestion environnementale à Confluence, puisque cet environnement-là doit précisément être défendu face aux incursions de l'environnement. Donc je cède la parole à Yanis qui va vous parler des peuplements des Confluences.